Seigneur, dans ta parole, tu nous dis d'être en toutes circonstances ceux qui se réjouissent de ce que nous avons en Jésus-Christ. Telle est, à notre égard, la volonté de Dieu en Christ Jésus, nous dit ta parole. Et que tu nous aides aujourd'hui, Seigneur, d'être sanctifiés, chacun d'entre nous, tout entier. Que notre être, notre esprit, notre âme, notre corps soient conservés sans reproche en vue du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble. Merci pour la liberté dont nous jouissions encore aujourd'hui. Et donne-nous donc de profiter de ce temps. Et cela, Seigneur, nous te prions pour ta seule gloire. Amen. J'imagine que vous vous souvenez de ceci. Il y a 15 jours, un événement qui a choqué le monde du foot. Christian Eriksen, le Danois, qui s'est soudainement effondré, inconscient sur la pelouse, à Copenhague, le 43e minute du match contre la Finlande. C'était difficile à voir cela, si vous l'avez vu en live, en direct. Il avait un arrêt cardiaque avant, merci Seigneur, d'être sauvé par un massage cardiaque, puis le choc électrique d'un défibrillateur. Et cela, peut-être vous l'avez vu, a déclenché une vague de soutien envers cet homme, envers même l'équipe de Danemark. Au Danemark même, mais à l'étranger également. Cela faisait beau à voir, je pense, pour pas mal d'entre nous. Mais en lisant les réactions de ses coéquipiers, j'étais moins frappé par ce que disait l'attaquant danois, qui s'appelle Pierre-Emile Hulberg. Si vous êtes danois, je m'excuse pour la prononciation de son nom de famille. Il joue, je pense encore, il jouait au Tottenham à un moment donné, celui-là. Et lui, bah, dans un sens, il disait ce que beaucoup auraient dit aussi à la place. Il disait à quel point ce qui s'est passé relativisait l'importance du foot. À quel point cela l'a rappelé que la vie est un don. Et qu'il faut donc profiter de la vie. Bah, telle est souvent une réaction face à un drame pareil. La vie est courte, donc conclusion, que faut-il faire? Il faut en profiter au maximum. Mais si vous croyez ça, dans ce cas, j'aimerais vous demander ce que vous faites ici ce matin. Peut-être même que vous posez la question, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Je peux profiter plus de la vie ailleurs. C'est l'été, les terrasses sont ouvertes, n'est-ce pas? Enfin, pourquoi gaspiller le milieu de notre week-end avec deux heures et demie, ça dépend de prédicateur, le dimanche matin dans une église? Bon, on va essayer de répondre à cette question, car ici, nous arrivons, comme Ben nous a dit, à la fin de cette épître de 2 Timothée, cette lettre écrite par l'apôtre Paul pour encourager son ami, son stagiaire en quelque sorte, Timothée. Nous arrivons du coup non seulement à la fin de l'épître, mais nous arrivons également à la fin de sa vie, la vie de Timothée. C'est pour ça que la première partie du titre pour ce message, c'est Paul en fin de course. Vous voyez le plan de ce que nous allons voir sur votre livret. Paul, pour rappel, il est emprisonné à Rome. Verset 6, que dit-il? Le temps de mon départ est arrivé. Sa mort, il le sait, est imminente. Il n'a plus d'espoir de retrouver la liberté. Il sait que ce sera plus tard. Alors, quel regard porte-t-il sur sa vie à ce stade de sa vie, juste avant la fin? Aurait-il été satisfait d'avoir pu profiter suffisamment de sa vie? S'il vivait à l'époque d'Instagram, aurait-il pu poster suffisamment de photos de ses voyages dans l'Empire romain? Sans blague, Paul était l'une des personnes qui a voyagé le plus dans le monde de l'Antiquité. Il avait parcouru l'Empire romain à plusieurs reprises. A-t-il pu contempler avec fierté toutes les coupes accumulées derrière la vitrine du meuble dans son salon? L'euro de l'an 48 après Jésus-Christ, la coupe du monde en l'an 50 après Jésus-Christ. Est-ce qu'il disait celle-là, ma fierté? Non, sa fierté n'est pas là. Sa fierté, elle est où? Que dit-il dans le début de notre texte, verset 7? J'ai mené le beau combat. J'ai achevé la course. C'est très connu, en fait, cette phrase pour des chrétiens. Souvent citée un peu hors contexte, d'ailleurs, hein, lors des funérailles de l'une ou l'autre personne. Les deux métaphores, ici le combat et ensuite la course, parlent non seulement donc de la foi chrétienne, je termine ma vie, mais encore plus du ministère chrétien. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur lors du déroulement de ma vie? Le verset précédent, peut-être vous ne l'avez pas sous les yeux parce que vous n'avez que ce que nous avons ici dans le livret, mais Paul vient de dire à Timothée, son ami, son stagiaire, mais ensuite un frère proche, un collaborateur de longue date. Il vient de lui dire, verset 5, que Timothée, lui, doit remplir son ministère, assurer pleinement son ministère. Donc son combat ou sa course, c'est de terminer la tâche qui lui a été confiée. Quelle tâche donc? Quelle tâche? De garder la foi, c'est ça ce qu'il lui dit. Au chapitre 1 de cet épître, au début, verset 11, Paul dit qu'il a été appelé par Dieu en tant que héros, apôtre, maître. Mais de quoi? De l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette tâche lui a été confiée de garder cet évangile, de ne pas dévier dans son enseignement par rapport à cet évangile, de tenir ferme dans la propagation de cette bonne nouvelle, de la foi chrétienne, coûte que coûte. Donc pas juste de façon privée. Il vient le dimanche matin, et puis il met ça dans une boîte, il rentre chez lui, et il oublie ça pour une semaine, et il revient une fois de nouveau la semaine suivante. Non. C'est pas que sa foi était très importante à lui d'un point de vue juste personnel, mais il vivait, lui, pour proclamer, défendre, transmettre cette foi chrétienne. Et cela était coûteux pour l'apôtre Paul. On le sait, il termine là, maintenant, dans 2 Timothée, sa vie dans la honte d'une prison romaine. Ainsi, il peut dire, verset 6, vous voyez cela, que sa vie est comme l'un des sacrifices de l'Ancien Testament. On appelle ça une libation, une offrande d'une boisson qui a été versée sur le sacrifice. Son ministère, il dit, c'est au coût donc de sa propre vie à lui, versée, donnée pour que d'autres puissent à leur tour comprendre, croire, transmettre cette bonne nouvelle, cette foi en Jésus-Christ. Si Paul parle dans ses versets 6, 7, 8 de lui-même, ce n'est pas parce qu'il fait son propre éloge, mes amis. Non, il parle ainsi car il cherche encore à transmettre cette façon de concevoir le ministère à Timothée. Parce que Paul le sait, il est bientôt parti, lui. Et c'est la génération suivante qui compte pour lui maintenant lorsqu'il écrit. Que va-t-elle faire suite à son départ? Et est-ce que cette génération-là communiquera une telle vision du ministère à la génération suivante? Et est-ce que celle-là le fera aussi pour la génération qui suit? Et ainsi de suite. encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à nous, en tant qu'Église, à ouvrir. C'est pourquoi le titre de ce message, vous le voyez dans le livret, comprend non seulement Paul en fin de course, mais nous. Que voulons-nous qu'on dise de nous lors de nos propres funérailles à nous? Voici donc quelqu'un qui a pleinement profité de la vie. Bon, ce n'est pas que la vie et ses plaisirs sont mauvais à tous égards. Non, il y a de bonnes choses dans cette vie-ci. Mais c'est que la vie et ses plaisirs sont trop limités dans le temps pour l'apôtre Paul. La vie est courte et donc profiter de la vie, non, la vie est courte et donc consacrez votre vie pour la bonne cause. Consacrez votre vie pour la bonne cause. Achevons donc la course. Gardons la foi au service de notre grand Dieu pour la bonne cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Et donc Paul maintenant, dans la suite ce que nous allons voir, fournit 4 encouragements, si vous voulez, pour que nous terminions la course comme il faut. D'abord, premier encouragement, valorisons les récompenses à long terme plutôt que celles à court terme. Quelle est la motivation de l'apôtre Paul qu'il est sur le point, dit-il, de recevoir la couronne de justice qui lui est réservée. Verset 8, le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. Une couronne, j'aime ce verset parce que couronne en grec, c'est Stéphanos, et mon prénom, si vous ne le savez pas, c'est Stephen, donc ça vient de là. Mais ça n'a rien à voir avec ce message, mais bon, j'ai voulu le dire quand même. Une couronne de justice, couronne comme récompense pour une course achevée de la part de l'apôtre lui-même. D'habitude, la couronne est donnée, n'est-ce pas, au vainqueur de la course. Et là, il s'agissait d'une seule personne. Mais cette couronne, remise par le juste juge, dit-il, celui qui reconnaît ceux et celles qui persévèrent dans la foi, qui termine la course, cette couronne est remise, fin du verset 8, à tous ceux qui auront aimé sa manifestation, sa venue, à tous ceux donc qui ont consacré leur vie à la lumière de cette grande réalité encore à venir, à savoir le retour de Jésus-Christ pour régner pour toujours dans la nouvelle création. Jésus lui-même, souvenons-nous, disait que Dieu dira à chacun qui aurait fait cela, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Une joie qui durera pour toujours, pour l'éternité. Alors, quelle couronne qu'il y a, qui nous attend. Ne perdons pas cette couronne-là de vue, chers amis. Et cela nous mène au verset 10. Et Démas, car voici quelqu'un qui avait perdu cela de vue. C'est un verset qui me hante, ce verset 10. Parce que Démas, nous le savons d'ailleurs dans le Nouveau Testament, c'était un membre de l'équipe de l'apôtre Paul. On le voit en Colossiens, en Philémon, 2 épîtres du Nouveau Testament. Mais ici, que voyons-nous à la fin du ministère de Paul? Démas a abandonné Paul. Et pourquoi? Par amour pour le monde présent. Verset 8 parle Paul de ceux qui aiment la venue de Jésus-Christ. Et verset 10, Démas a aimé le monde présent. Si le monde et ses plaisirs nous motive plus ou moins, nous stimule plus que Jésus-Christ, alors vous allez suivre le monde et ses désirs. C'est une question de cœur, n'est-ce pas? Notre cœur va dicter ce que nous allons faire. Si le monde et ses plaisirs ont l'air plus alléchants, on va suivre le monde et ses plaisirs. Mais si Jésus-Christ et la récompense qui viendra de lui est la chose qui nous stimule le plus, alors nous aurons la capacité de résister au monde et à ses désirs. C'est bien ce que tu aimes qui va dicter comment tu vas vivre. J'espère que vous savez cela, les amis. C'est important pour nous tous, cela, mais c'est surtout, je dirais, important pour nos jeunes à comprendre cela. Nous avons souvent l'impression que la foi chrétienne nous empêche de suivre notre cœur, de faire ce qu'on veut faire. Notre société crie autour de nous dans tout ce que nous écoutons, nous lisons, nous voyons sur nos écrans. Faites ce qui vous semble bon. Suivez votre cœur. Ça ira. C'est là la voie d'épanouissement. Et la réponse chrétienne est comment? Ce n'est pas qu'il ne faut pas suivre votre cœur, mais il faut orienter votre cœur autour de ce qui a la plus grande valeur. Être captivé par la bonté et la grâce de Dieu, c'est de connaître une richesse, une espérance, une joie qui est bien supérieure à tout plaisir de cette vie. Est-ce que vous savez cela, chers amis? Il faut bien réfléchir à cela, contempler cela, comprendre cela. Mettons pour un instant, si vous voulez bien, le choix de Damas, comment on appelle Damas, dans une balance à l'ancienne, avec le choix de l'apôtre Paul. Alors, d'un point de vue de cette vie, Damas gagne plus de points, n'est-ce pas, les plaisirs de cette vie-ci. Mais d'un point de vue de l'éternité, c'est Damas le perdant. C'est clair, ça, n'est-ce pas? C'est terriblement clair. Parce qu'ici, nous avons affaire à l'éternité, tandis qu'ici, nous avons affaire rien qu'à cette vie-ci. Et pourtant, voici pourquoi c'est important. Damas est tombé, a abandonné l'apôtre Paul. Pas forcément cela pour dire qu'il ne réclamait plus du tout la foi chrétienne, mais la honte d'être associé à Paul est devenue trop contraignante pour lui. Damas, dit Paul, m'a abandonné. Vous entendez cela? Il cherchait forcément une vision de la foi chrétienne plus privée, qui prenait pas les récompenses à venir, mais plutôt les récompenses de cette vie-ci. S'agissait-il du renom qu'il pouvait avoir dans cette vie pour différents exploits? Est-ce qu'il était question du plaisir, de l'amitié de ceux et celles qui mettent de la valeur uniquement dans cette vie? Est-ce qu'il était question des plaisirs d'une vie sans devoir être l'intrus lorsque le cercle dans lequel on se trouve tombe dans l'excès ou l'égoïsme ou l'injustice? Est-ce que c'était le désir d'être aimé, respecté à tout prix par les autres? On ne sait pas. Mais tout cela a du sens dans l'immédiat, si ce n'est que cette vie qui compte. Mais à la lumière de l'éternité, quel terrible choix de la part, n'est-ce pas, de Damas. Il pensait faire le bon choix, mais il s'est trompé. Ou aujourd'hui, 2000 ans plus tard, On parle encore de lui lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 4. Pourquoi nous parlons encore de cet homme? Parce qu'il a fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Alors, valorisons les récompenses à long terme plutôt que celles à court terme. Si vous permettez, parce que c'est juste avant la période des vacances, j'aimerais quand même juste dire un mot par rapport aux vacances. Le monde et le chrétien partent en vacances pour des raisons différentes. Vous savez cela, n'est-ce pas? Le monde, évidemment, c'est une généralisation, les amis. Le monde travaille afin de pouvoir partir en vacances. De belles vacances, bien méritées, pour être capable, lorsque nous sommes en vacances ou même en retraite plus tard, vivre, bénéficier des plaisirs de cette vie. Mais le chrétien part en vacances afin d'avoir le repos nécessaire. C'est une bonne chose, le repos. Le repos nécessaire pour pouvoir bien travailler. Travailler dans le sens plus large, ultimement, pour le Seigneur. On ne vit pas pour nos vacances. J'espère que vous savez cela. On ne part pas en disant « Enfin l'épanouissement !» On vit pour le service de notre Dieu, pour la transmission de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans notre génération. De temps à autre, ce parcours, c'est bien de nous arrêter, bien sûr, à une station de service pour refaire le plein, avoir du repos. Mais ce n'est pas cela notre objectif. Notre objectif, c'est encore plus loin à venir. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, allez en vacances, les amis. C'est très bien, si vous le pouvez, si vous avez des congés à la maison, c'est aussi important pour du repos. Mais on ne vit pas pour de telles choses. Alors, deuxième élément, on va aller un peu plus vite, je pense, sinon Benjamin va venir me remplacer. Œuvrons pour le Seigneur jusqu'au bout. Œuvrons pour le Seigneur jusqu'au bout. Si ce premier encouragement s'adressait dans un sens plutôt à nos jeunes, ce deuxième encouragement s'adresse plutôt à nos aînés dans la foi, nos seniors. Car le souci de l'apôtre Paul, jusqu'au bout dans sa vie, vous voyez ici, reste au-dessous de toute autre chose, le ministère de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au verset 9, il demande à Timothée de le rejoindre au plus vite. Pourquoi? En partie parce qu'il aime Timothée, il se réjouirait de le revoir, il serait encouragé par Timothée. Après tout, d'autres proches sont également ailleurs pour le moment, nous dit ce texte. Il y a Crescens en Galatie, il y a Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi, dit-il. Mais qui devait-il prendre Timothée avec lui en venant vers Rome? Il doit amener Marc, utile, selon le verset 11, pour le ministère, dit l'apôtre Paul. Et que doit-il amener avec lui? Est-ce qu'il doit amener sa télé, son Kindle, son PlayStation? Apporte verset 13 le manteau, il va faire froid parfois en prison, et les livres, surtout les parchemins. Alors, nous ne sommes pas certains du contenu de ces livres, de ces parchemins, mais il y a de fortes chances que ce soit des outils pour son travail, d'encouragement auprès des autres, des écritures elles-mêmes, ses lettres, des commentaires. Paul se sert de son emprisonnement pour faire quoi? Pour se consacrer encore à la tâche de garder la foi, de transmettre la foi. Alors réfléchissons à un moment donné par rapport au personnel qui se trouvait en fin de vie pour Paul dans son équipe. Qui est-ce qu'il y a à Rome alors avec lui une fois que Timothée arrive avec Marc? Il y a Luc. Luc c'est qui? C'est l'un des auteurs des quatre évangiles de Jésus-Christ. Il y a Marc, un autre auteur. de l'un des quatre évangiles. Et il y a Timothée, l'envoyé apostolique le plus proche de l'apôtre Paul. Alors, vous imaginez une telle équipe, une telle stratégie que pour les encourager pour la les générations à venir, ils sont encore aujourd'hui bénéficiaires de cette équipe rassemblée par l'apôtre Paul. N'y avait-il jamais un moment de détente pour cette équipe-là, de repos, d'humour? Bien sûr, la Bible reconnaît nos besoins pour de telles choses. Mais ce n'est pas là l'orientation de toute une vie. Jusqu'au bout, il se met pour servir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors de même, dans notre Église, pour nos frères et sœurs plus expérimentés, plus avancés en âge, la perte de force physique ne doit pas signifier un regard réduit pour le ministère de Jésus-Christ, pour son Église. Non, que ce soit la prière, que ce soit l'hospitalité, que ce soit un mot d'encouragement, que ce soit le simple fait d'assister encore à une réunion par Zoom ou en présentiel, il y a des moyens importants pour continuer à exercer le ministère jusqu'au bout. La fin de parcours envisagée ici par l'apôtre, ce n'est pas une retraite par rapport à la foi. Ce n'est pas de passer d'une croisière à une autre sur la mer Méditerranée en se disant qu'il était temps de laisser la place aux jeunes. Non. C'est le temps de se donner toujours jusqu'au bout pour la bonne cause. Bien sûr, nous prenons en compte nos limites, la perte de nos forces physiques. Nous nous adaptons notre façon de servir pour que les plus jeunes prennent de la place, mais nous restions persuadés de l'importance du ministère de Jésus-Christ jusqu'au bout. Alors, troisième encouragement, c'est lequel? Comprenons que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Cet encouragement vient surtout de par les noms, les prénoms de ceux et celles mentionnés brièvement à la fin de la lettre, surtout dans ces derniers versets 19, 20, 21. Que dit-il ici? Salut Prisca et Aquilas. On sait de la part d'autres données du Nouveau Testament, il s'agit ici d'un couple bien investi dans la formation des autres, dans l'hospitalité, il y avait une église qui se réunissait dans leur maison, dans le soutien de l'apôtre Paul dans sa mission. Ni l'un ni l'autre, pasteur à temps plein, ils étaient des entrepreneurs de l'époque avec des moyens importants qu'ils mettaient au service du progrès de la bonne nouvelle. Ensuite, il mentionne Onésiphore, lui qui, selon le chapitre 1 de cet épître, rendait visite à Paul à Rome, malgré la honte d'une telle association. Il se peut d'ailleurs que Onésiphore est mort lorsque Paul écrit, parce qu'il dit verset 19, ainsi que la maison d'Onésiphore. Est-ce que il a payé le prix de son service en rendant sa vie parce que cela offensait les Romains? On ne sait pas, ce n'est pas clair, mais c'est une possibilité. Mais ainsi, Onésiphore, en rendant visite à Paul à Rome, il brise une règle tacite qui est encore là à notre époque, que lorsqu'il s'agit d'un potentiel conflit entre ma culture et ma foi, entre ma famille et ma foi, entre mes amis et ma foi, entre mes collègues et ma foi, entre mon clan, ma tribu et ma foi. Alors je respecte selon cette règle tacite le clan, la famille, la culture, les amis. Et la foi passe en deuxième.
Onésiphore n'était pas d'accord avec cela. Il brise cette règle tacite pour qu'il s'associe à l'apôtre Paul, quoi que cela coûte. Je suis en train de lire un livre sur le système de dopage dans le sport russe dans les années 2000, après 2010 jusqu'à 2015, à quel point ce programme de dopage encouragé et facilité sur tous les niveaux par toutes les autorités régionales et fédérales détruisait donc la compétitivité dans le sport, faisait que la Russie est encore, je ne sais plus si c'est encore le cas, banni par rapport aux JO pour certains compétiteurs. Et il y avait un couple courageux qui commençait à contacter des personnes en dehors de leur pays pour les alerter de ce qui se passe. Et quelle est la réaction immédiate de la part de leurs amis russes qui ne soient pas de bons Russes, d'être déloyal envers leur pays. Onésiphore brise cela, il s'en fiche ultimement de ce que son clan, de ce que ses amis, de ce que sa famille dit. Il reconnaît un lien au-delà de tous ces autres liens. Un lien qui s'est créé par la joie de connaître la grâce de Dieu, qui ne fait pas de discrimination selon notre culture, notre langue, notre éducation, notre classe sociale, la couleur de notre peau. Onésiphore est mentionné à la fin de l'épître de 2 Timothée. Ensuite, verset 20, Eraste et Trophime, et au verset 21, Eubolos, Pudens, Linus, Claudia. Là, ces autres-là, au verset 21, on ne les connaît pas. Mais ce sont des associés de l'apôtre Paul, engagés, on suppose, dans l'église à Rome, parce que c'est à Rome où Paul se trouve. Paul donc les connaissait, car Paul était un homme qui aimait travailler en équipe. Non, plus que cela, il voyait l'importance de travailler en équipe. Pour que, subvenu de 2 Timothée chapitre 2, verset 2, qui dit ceci, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Paul croyait cela, pratiquait cela lui-même. Et il travaillait donc en équipe, une équipe variée, une équipe diverse, hommes, femmes, éduqués. On pense à Luc qui a écrit l'Évangile. Un homme éduqué, mais homme moins éduqué. Hommes et femmes avec des moyens importants, Prisca, Aquilas. Hommes et femmes avec des moyens modestes. Ceux et celles d'un arrière-plan différent, juif ou païen. Qu'avaient-ils en commun? Ils se soucient avec Paul pour la transmission de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est bien cela qu'il faut viser encore à notre époque. Dans notre Église. Bien sûr, il y a certaines personnes qui, dans la grâce de Dieu, ont un rôle fondateur, comme l'apôtre Paul lui-même, apôtre. Nous ne sommes pas des apôtres. On s'attend à ce que les apôtres aient leur prénom dans la Bible. Mais j'imagine que Eubolos, Pudens, Linus et Claudia ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on allait parler de leur prénom plus de 2000 ans plus tard. Pour un livre qu'ils ont écrit, qui est devenu un classique pour un exploit sportif remarquable qu'ils allaient faire plus tard, pour même une œuvre d'évangélisation qui a transformé toute une culture. Non, pour la simple raison qu'ils étaient investis dans leur église locale. C'est dingue cela. Qui sont devenus aussi connus dans le monde entier par des milliers et des milliers et des milliers de chrétiens à travers 20 siècles parce qu'il s'agissait de 4 personnes impliquées dans leur église locale. Ces 4 personnes restent plus connues, figurez-vous, que toute autre personnalité de l'époque par cette simple raison qu'ils avaient une activité au sein de leur église. À l'exception, je dirais, de l'empereur
romain, Néron.
Et même lui, il est connu aujourd'hui, surtout parce qu'il avait persécuté les chrétiens. Vous voyez l'ironie de la main de Dieu derrière tout cela? Qui aurait imaginé cela à l'époque? Hubanos, Pudens, Linus, Claudia. D'ici 2000 ans, les amis, vous serez plus connus que les chefs politiques parmi lesquels vous êtes. De quoi est-ce que vous racontez? Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Donc, minimisons pas le rôle que nous avons, les simples chrétiens, à jouer pour la transmission de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à notre époque. Non, pas comme un grand héros, mais en tant que serviteur fidèle. Vous savez, cette Église a besoin de telles personnes. Nombreux sont ceux dans notre Église qui découvrent l'Église. Peut-être cela c'est vous pour le moment. Qui découvrent même la foi chrétienne telle que la Bible l'a décrit. Nombreux sont ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne savent pas encore s'ils adhèrent à la confession de foi biblique. Nombreux sont ceux qui ne se sont pas concernés par les uns et les autres au sein de cette Église, mais qui sont là pour tâtonner un peu, pour avancer éventuellement un peu plus. Alors, qui va exercer le ministère auprès de toutes ces différentes personnes? Est-ce que vous allez aider à votre tour dans cela? Si Paul écrivait sa lettre à partir de Bruxelles en 2021, est-ce qu'il mentionnera votre prénom parmi les prénoms mentionnés ici? À Lucie, je cite de manière aléatoire, pour rendre ceci plus réel pour nous, mais je ne vise personne. Est-ce qu'il dira Suzy, Sarah, Monique, Chantal, Jonathan, Denis, Héritier, Eric, Fabrice? On peut continuer, n'est-ce pas? Mais est-ce que votre nom sera sur cette liste? Votre nom peut y apparaître, vous savez, si nous prenons ce troisième encouragement à cœur, à savoir comprendre que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Alors, dernier encouragement, et le plus important, appuyons-nous sur le Dieu qui délivre et non sur les hommes faillibles. Ce dernier, c'est le plus important, parce que cela ne met pas l'accent sur nous, sur ce que nous pouvons faire, mais sur notre Dieu et sur ce que lui, il peut faire. Le directeur de l'école secondaire que moi j'ai fréquenté lors de ma jeunesse est décédé il n'y a pas longtemps. Et lors de ses funérailles, il y avait près de 1200 personnes rassemblés pour célébrer sa vie dans l'une des cathédrales les plus importantes et plus grandes de Londres. C'était un homme connu, un homme apprécié, forcément, avec autant de personnes présentes. Et lorsque l'un de ses anciens collègues lui rendait hommage lors de la cérémonie, il avait appelé cet homme, et ça m'a frappé, un triomphe d'humanité. Bon, peut-être une exagération, vous de juger, pas à vous parce que vous ne le connaissez pas, mais à Dieu qui m'en de juger. Mais cet homme terminait son discours en citant un écrivain britannique. Cet écrivain s'appelle Thomas Hardy. C'est pas grave si vous n'avez jamais entendu parler de lui. Et celui qui donnait le discours appliquait le propos de cet écrivain britannique à cet homme qui venait de décéder. Et comment est-ce qu'il avait terminé? Tu étais un homme bon. Tu as fait de bonnes choses. Ah ben, j'avais l'esprit partagé en entendant cela. Sur deux fronts. Premier front, on met trop en avant la force de l'homme lorsqu'on dit de telles choses. Et deuxièmement, ça va de pair, on minimise la grandeur et la gloire de Dieu. Je pense que Paul aurait été gêné si on avait dit cela de lui. Car il comprenait ce qui se trouvait dans le cœur de l'homme, ce qui se trouve dans notre propre cœur.
Non seulement il y a des Alexandres de ce monde, verset 14, qui avaient fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul, de telles personnes, il faut se garder, de telles personnes, dit Paul, il va y avoir de l'opposition frontale, il le sait, ça existe dans le ministère, il ne faut pas baisser les bras, simplement parce que vous rencontrerez de temps à autre de l'opposition. Il y a de telles personnes, mais Paul savait aussi qu'il y a le type de personnes au verset 16. Lorsqu'il dit « Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. » Il ne s'agit pas ici de ses ennemis, il s'agit, il paraît, d'un certain nombre de ses proches. Il trouvait des raisons pour ne pas tenir avec Paul au moment voulu. Paul savait, voyez-vous, qu'une telle faiblesse était possible par moment. Et j'imagine, pour la plupart d'entre nous, nous savons également cela. Et donc il écrit à Timothée pour l'avertir par rapport à cette possibilité. Mais plus que cela, il écrit à Timothée pour que Timothée lui aussi s'appuie non sur les hommes qui varient dans leur fidélité, mais sur Dieu. Et pas juste ici dans un sens lointain ou religieux ou pieux, mais de manière personnelle, concrète. Le Seigneur, dit-il, m'a assisté. C'est lui qui a rendu Paul puissant pour que, par l'apôtre Paul, la proclamation soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. C'est lui, le Seigneur, qui a délivré Paul de la gueule du lion, sûrement métaphorique, que cela soit l'empereur romain, que cela soit Satan derrière, peu importe. Lorsque Paul, face à l'abandon par ses proches, fin du verset 16, dit qu'il ne leur en soit pas tenu compte, il évoque, j'espère que vous l'entendez, son maître, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, lui aussi, faussement accusé, lui aussi abandonné par ses amis, lui aussi qui se trouvait dans les mains des juges romains. Mais ce maître-là, le Seigneur Jésus, sauve par sa grâce, par un tel sacrifice. Non pas, selon le chapitre 1, verset 9, par nos œuvres à nous, il ne nous sauve pas pour cette raison-là, mais parce qu'il a vaincu la mort et le péché par son propre sacrifice. C'est la croix, par sa résurrection d'entre les morts. Et cette grâce a imprégné la vie de Paul à un point que non seulement il proclame ce message-là avec sa bouche, mais il vit ce message-là avec son propre comportement. Il connaît la grâce de Dieu. Il connaît donc le Seigneur lui-même. Et il comprend donc que ce n'est que lui, verset 18, qui le délivrera de toute œuvre mauvaise et le sauvera pour son royaume céleste. Et donc voici la conclusion, fin du verset 18, de l'épître de la vie de l'apôtre Paul. Et quelle conclusion majestueuse, n'est-ce pas? À lui, au Seigneur, la gloire, à tout jamais. Donc, quatre encouragements, les amis, pour nous, pour combattre le combat, pour achever la course. Après avoir tout fait, oui, pour valoriser le monde à venir plus que le monde présent. Après avoir œuvré jusqu'au bout avec toutes les forces que le Seigneur nous donne. Après avoir joué chacun notre rôle au sein de l'Église de Jésus-Christ, nous nous appuyons sur notre Dieu, à lui la gloire pour toujours, à tout jamais. On va prier, on va chanter dans un instant, les amis, que Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas, avec lui, joie et victoire, paix et bonheur, ici-bas. Prions, prions, et puis je pense qu'il va en chanter. Seigneur, voulons te demander que nous puissions être ceux qui disent avec l'apôtre Paul que oui, nous avons mené le beau combat, nous avons achevé la course, nous avons gardé la foi dans notre génération, dans nos circonstances, à nous. Et donne-nous donc de méditer encore ces encouragements de la part de l'apôtre Paul. Et donne-nous de nous appuyer sur toi, Seigneur, d'être ceux qui disent à toi la gloire, à tout jamais. Amen. Mm-hmm.